Bienvenue dans le cadre de ces rencontres des acteurs publics organisées en partenariat avec le Conseil d'État et consacrées cette année à la question des crises, de la gestion des crises, notamment après ces années que nous avons connues d'état d'urgence. Pour en parler avec nous aujourd'hui, un témoin de choix, Bernard Cazeneuve, bonjour,
bonjour,
Monsieur le Premier ministre. Alors, vous avez dirigé le gouvernement de la République française à la fin du quinquennat de François Hollande, vous avez été aussi ministre de l'Intérieur. Depuis votre époque, si je puis dire, à l'époque où vous dirigiez le gouvernement, on a eu beaucoup d'états d'urgence, à commencer avec vous, sous votre ministère à l'Intérieur, avec la question terroriste. Et puis, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a connu un état d'urgence un petit peu différent pour des raisons sanitaires. Au final, quasiment depuis cette époque-là, la moitié du temps, on s'est retrouvé sous état d'urgence. Dans cet état d'urgence, on comprend que le fonctionnement normal des pouvoirs publics réguliers est un peu mis entre parenthèses. Il y a tout un tas de garde-fous. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller jusque-là avec le recul? Vous avez ce recul-là aujourd'hui. Ou est-ce qu'on peut, à l'avenir, dans une période qui sera amenée à multiplier cet état d'urgence, modifier des choses pour que peut-être on soit dans quelque chose de moins dramatique?
D'abord, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics n'a pas été remis en cause. Il n'a pas subi d'interruption, c'est précisément d'ailleurs pour ne pas avoir à subir d'interruption ou d'à-coup dans le fonctionnement des pouvoirs publics que l'état d'urgence a été mis en place dans des circonstances qui juridiquement peuvent être qualifiées de circonstances exceptionnelles, puisque c'est dans le cadre de la théorie des circonstances dites exceptionnelles que l'état d'urgence a été déclenché, à la fois face au terrorisme mais aussi face à la pandémie. Pourquoi ? Parce que lorsque des circonstances particulières surviennent, qui peuvent précisément porter atteinte au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de l'État, ou conduire à une remise en cause de principes fondamentaux, notamment la paix sociale, le respect de l'ordre public, la concorde entre les citoyens, l'État a la possibilité, pour se protéger de tels risques, de prendre de façon exceptionnelle et pour une durée déterminée des dispositions qui, par des mesures de police administrative, permettent d'éviter que des troubles graves à l'ordre public ne surviennent, qui viendraient précisément perturber le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'État ne peut pas le faire sans qu'un contrôle important s'exerce sur lui. D'abord un contrôle parlementaire, puisque pour ce qui concerne l'état d'urgence, le gouvernement est obligé d'aller devant le Parlement pour justifier de la situation de péril imminent qui justifie du déclenchement de l'état d'urgence. C'est ce que nous avons fait lorsque la crise terroriste est survenue. C'est parce que des terroristes n'avaient pas encore tous été arrêtés, que d'autres attentats pouvaient survenir, qu'une conférence internationale devait se réunir à Paris 15 jours après les attentats de Saint-Denis et de Paris, qu'il a été décidé de mettre en place l'état d'urgence précisément pour faire face à ce contexte. Et on ne peut pas mettre en œuvre l'état d'urgence si le Parlement ne se prononce pas et n'autorise pas le déclenchement de l'état d'urgence et par conséquent si le gouvernement ne justifie pas des circonstances qui président à son déclenchement. Il en a été de même pour l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, le Parlement s'est constitué en instance de contrôle de l'action du gouvernement, puisque les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été érigées en commissions d'enquête permanentes, et que le gouvernement a dû, sur chacune des mesures de police administrative prises par lui, justifier les conditions dans lesquelles ces mesures avaient été non seulement déclenchées, mais mises en œuvre. Et enfin, un contrôle juridictionnel s'exerce sur le gouvernement, qui est destiné à veiller à ce que les mesures prises par lui soit proportionné au contexte qui a justifié de la mise en œuvre de ces mesures. Le principe de proportionnalité de la mesure de police administrative au contexte est constamment contrôlé par le juge. Donc on voit bien que les mesures de l'état d'urgence sont très encadrées, qu'elles sont destinées à faire face à des circonstances exceptionnelles qui peuvent remettre en cause toutes les libertés, et que si elles mettent entre parenthèses un certain nombre de dispositifs qui précisément sont de nature à garantir ces libertés, ou si elles impliquent la mise en œuvre de mesures de police administrative qui peuvent apparaître comme exorbitantes, ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre d'une autorisation, puis d'un contrôle parlementaire très poussé, d'un contrôle juridictionnel qui l'est tout autant.
Et du point de vue du temps, on a bien vu que là, on était sur du temps long dans ce deuxième état d'urgence avec cette crise sanitaire. Est-ce que ce temps long, est-ce que ça ne modifie pas la substance de l'état d'urgence et la conception qu'on en a, pour dire les choses autrement? Est-ce que l'équilibre des pouvoirs est toujours satisfait? Vous avez rappelé les conditions, mais est-ce que temps long et temps court, vous avez plutôt connu le temps court par rapport à la durée qu'a induit la crise sanitaire? Est-ce que pour vous, les problématiques sont exactement les mêmes? Ou est-ce que cette perception du temps modifie les choses?
Je pense que ce dont il faut se garder absolument, c'est d'introduire dans le droit commun des mesures qui relèvent de la mise en œuvre de la théorie des circonstances exceptionnelles. Moi, je préférais que le gouvernement vienne régulièrement devant le Parlement pour obtenir une autorisation de prorogation des dispositions de l'état d'urgence pour des raisons qui tenaient au contexte, plutôt que de voir ces mesures inscrites dans le droit commun, privant le Parlement d'une partie des pouvoirs de contrôle dont il disposait jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs là une divergence que j'ai eue avec l'actuel gouvernement, puisque le président de la République avait indiqué, au moment où il a été élu, qu'il sortirait de l'état d'urgence pour établir les libertés fondamentales, comme s'il avait d'ailleurs été attenté à ces libertés au moment où nous étions confrontés à la crise sanitaire. Et en réalité, à travers la loi d'octobre 2017, ces mesures sont entrées dans le droit commun. Ce n'est pas parce que vous appelez une perquisition administrative une visite domiciliaire et une mesure d'assignation à résidence, une mesure de surveillance et de contrôle, que vous changez la nature des mesures de police administrative. Donc, ce qui rend plus difficilement acceptable les dispositions des états d'urgence, quelles que soient ces dispositions, c'est leur entrée dans le droit commun. Et c'est là-dessus que porte la divergence.
Alors là, on est en train d'essayer de sortir de cette crise sanitaire. Acteur important de cette crise, derrière le politique, en appui du politique, c'est l'administration. On a vu un certain nombre de critiques. À la différence du premier état d'urgence, là, vous avez été spectateur, alors qu'au premier, vous étiez acteur. De votre perception, est-ce que vous jugez qu'elle a bien tenu? Comment vous qualifieriez les choses en tant que spectateur, évidemment?
Je pense que l'administration a été confrontée à une crise inédite. Dans les deux cas d'ailleurs, l'ampleur de la crise terroriste, pour des raisons qui tenaient à la mutation des modalités d'intervention des terroristes, était difficilement prévisible au regard des attaques que nous avions subies jusqu'au début des années 2013-2014. La crise sanitaire, qui l'avait vu venir? C'est très difficile de faire des commentaires sur l'action des gouvernements lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés extrêmes, en oubliant l'imprévisibilité du contexte et la difficulté dans laquelle le gouvernement s'est trouvé d'y faire face. Moi, je considère que pendant cette période, l'administration a fait de son mieux pour essayer de protéger les Français, que les mesures qui ont été prises et globalement celles qui devaient être prises compte tenu du contexte auquel le pays était confronté.
On parle aussi beaucoup de développer une véritable culture de l'anticipation, de la prévention des risques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque de votre point de vue, peut-être à partir de votre expérience, pour qu'on aille un peu plus loin? Parce qu'on est aussi confronté au réel, donc on est maintenant face à une situation qui est différente de celle qu'on avait peut-être connue il y a 10 ans.
Je pense que la juxtaposition des crises auxquelles le pays est confronté, regardez ce qui s'est passé au cours des dernières années, crise économique et financière, ou plutôt crise financière et économique à la fin des années 2000, avec la crise des subprimes, puis crise terroriste qui dure plusieurs années, crise sanitaire. Imaginez ce que serait la situation demain si nous devions, par exemple, avoir à subir des attaques cyber massives qui bloquent le fonctionnement d'organismes d'importance vitale dans le pays. Donc la juxtaposition des crises implique que l'administration se réorganise, pour partie, sur le fondement du retour d'expérience de ces crises. Se réorganiser, c'est renforcer dans l'administration toutes les missions d'anticipation des crises et de préparation aux crises. C'est aussi renforcer l'interministérialité.
Ça, c'est beaucoup revenu, la question de la coordination, c'est un sujet complexe.
C'est un sujet très important, fondamental. Oui.
Et comment expliquez-vous qu'on s'est retrouvé, notamment dans le secteur de la santé, où ça a donné le sentiment, peut-être plus que dans d'autres politiques publiques, qu'on avait beaucoup agenciarisé, que du coup, on avait un État central, si je puis employer cette expression, qui avait un peu du mal à reprendre la main. On avait un certain nombre d'organismes de conseil, d'expertise, certains qui étaient des opérateurs, puis on avait une direction générale de la santé, un ministre au-dessus. Est-ce que vous avez déjà, quand vous étiez aux manettes, le sentiment qu'il y avait une forme de démembrement ou de dilution ?
Non, je pense qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des structures d'expertise centralisées, déconcentrées, qui interviennent dans le fonctionnement de l'État, soit pour mettre en œuvre des politiques publiques, soit pour conseiller l'État. Je pense, en revanche, ce n'est pas une critique que j'émets, mais c'est un constat que je fais sur le fondement du retour d'expérience, que lorsqu'il y a des crises comme celle-ci, et notamment la crise sanitaire, il faut donner à l'administration déconcentrée de l'État, en relation avec les collectivités territoriales, une capacité de coordination qu'on a mis trop de temps à déclencher. Et je pense qu'il aurait été préférable que les préfets soient davantage investis de la responsabilité de coordination d'action d'administration sur les territoires, que l'action des préfets en matière sanitaire tienne compte de certaines singularités territoriales et que les préfets soient en charge d'articuler la relation avec les maires pour que ceux-ci puissent être davantage impliqués dans les politiques préventives et de sensibilisation des populations, à la fois sur la question du port du masque, sur la question des gestes barrières ou sur celle de la vaccination. Et le fait que le ministère de la Santé ait été érigé en ministère concourant, en ministère, pardon, menant, alors qu'il aurait pu être davantage un ministère stratégique mais concourant aux côtés du ministère de l'Intérieur, a été, à mon avis, un petit défaut d'organisation. Il aurait fallu beaucoup plus vite donner au ministère de l'Intérieur le soin de coordonner l'action de l'ensemble des acteurs sur les territoires.
Ça fait un moment qu'on s'interroge sur le rôle que le préfet, représentant du gouvernement, mais représentant aussi du ministère de l'Intérieur, doit jouer dans le cadre aussi des réformes territoriales, des services déconcentrés, la REAT. Et c'est vrai que on a quand même du mal à donner à ce préfet sa pleine puissance ou son rôle tout entier, souvent parce qu'il reste un peu lesté de cette image intérieure. Est-ce que pour vous, c'est un faux problème ? On parle parfois de rattacher les préfets à Matignon pour que cessent toutes ces petites querelles de chapelle en lui donnant une forme de juge un peu au-delà de tout le monde. Est-ce que pour vous, ça aiderait ou est-ce que non ? Il faut qu'on reste dans ce positionnement intérieur.
Je pense que ces réflexions résultent du fait qu'on a dénaturé le rôle du ministère de l'Intérieur depuis une vingtaine d'années. Et j'ai essayé d'ailleurs, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, de corriger cela. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'État. C'est le ministère de la Sécurité, bien entendu, mais c'est aussi le ministère de l'administration territoriale de l'État. Et c'est le ministère des Libertés publiques. Parce que le ministre de l'Intérieur, s'il a une conscience pleine et entière de ce qu'est sa mission au sein de l'État, doit se considérer comme le ministère de la laïcité, des principes généraux du droit, et veiller à ce que l'action qu'il conduit en matière de sécurité ne soit pas attentatoire aux libertés publiques, surtout lorsque l'on est obligé de déclencher la théorie des circonstances exceptionnelles. Et le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de l'État, doit donner au préfet un rôle de coordination interministérielle puissant. Et pour ce faire, les préfets doivent avoir les moyens de leur mission. C'est la raison pour laquelle j'avais engagé une réforme de l'administration déconcentrée de l'État à travers le programme Préfecture Nouvelle Génération, qui était destiné à dégager des moyens supplémentaires pour renforcer au plan départemental l'action de l'administration déconcentrée de l'État sous l'autorité des préfets, de manière à ce que le ministère de l'Intérieur soit renforcé et davantage reconnu comme le ministère de l'État. Je pense que le rattachement des préfets à Matignon serait une forme et une manière d'affaiblissement de l'État, de la même manière que je considère que la suppression de la grande école qui est l'ENA, même si en réalité elle est plus transformée que supprimée, et la suppression du corps préfectoral procède d'une même logique d'affaiblissement de l'État. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris des positions très claires sur ces réformes, qui sont des positions de désapprobation de leur orientation.
Alors, l'autre grand acteur de cette crise, et c'est peut-être la première fois où il est autant mis en avant, c'est le rôle de l'expert. C'est cette crise sanitaire a mis au jour un besoin d'un point d'appui pour le politique. Est-ce que de manière un peu générale, vous trouvez qu'on a réussi à avoir un équilibre? On est passé d'un gouvernement qui est entré dans cette crise en disant « moi j'applique les décisions du scientifique hein, », voilà. Et puis progressivement, dès déjà la première décision du déconfinement, que le président a un peu imposé à ses ministres, voilà, un certain nombre d'acteurs, on a senti que, au fur et à mesure où le président avait un peu des kilomètres au compteur, il se distanciait de l'expertise. On revenait aussi à un concept peut-être démocratique. Pour vous, on en est où aujourd'hui comme... Quel regard vous portez sur ce couple préfet, ce couple expert, pardon, décideur public ?
Je pense que le décideur public ne peut pas prendre de bonnes décisions s'il n'est pas entouré d'une capacité d'expertise. Je pense que la capacité d'expertise pose un problème démocratique lorsque les experts prennent des décisions à la place des responsables politiques. Ils doivent éclairer la décision du responsable politique, mais ne peuvent pas la lui dicter, ni se substituer à lui au moment de la prendre. Et enfin, l'émergence de la numérisation de la communication politique et des réseaux sociaux dans la sphère du débat public fait qu'aujourd'hui, chaque personne qui communique sur Twitter ou sur les réseaux sociaux s'érige en expert. Un expert autoproclamé, et que ça aboutit à une remise en cause de l'expertise qui peut compliquer la tâche des politiques. Et une remise en cause non seulement de l'expertise, mais de la science dans sa capacité à engendrer le progrès et à permettre aux sociétés de comprendre la complexité des défis auxquels elles se trouvent confrontées. Et donc je pense qu'il faut créer les conditions, quand on est politique, d'un équilibre juste. Et l'équilibre juste, c'est s'entourer de compétences, ne pas laisser ceux qui détiennent la compétence se substituer à ceux qui ont la légitimité démocratique pour décider, et être dans une démarche suffisamment pédagogique pour que la science et l'expertise soient des éléments destinés à éclairer le débat public, y compris dans la relation que les élites entretiennent avec les citoyens et que les citoyens entretiennent avec les élites. C'est-à-dire que l'expertise doit être beaucoup plus partagée qu'elle ne l'était auparavant.
Parce que là, on a assisté à une période au cours de laquelle il y avait une sorte d'habilitation qui avait été donnée à une équipe scientifique, c'était le conseil scientifique, mais de fait, dans l'espace public, il y avait bien d'autres émetteurs qui avaient des qualités académiques, etc. On s'est retrouvé avec une expérience plurielle. Du point de vue de la communication politique pour le pouvoir, ça brouille le message.
Je crois que le pouvoir a eu raison de s'entourer d'experts, et il a eu tort de sacraliser ses experts avant même d'avoir engagé sa communication politique, en donnant le sentiment qu'il avait confié aux experts le soin de décider à sa place. Et en donnant le sentiment que seuls les experts désignés par lui, alors qu'il pouvait y en avoir d'autres, et que sur ce sujet où finalement la connaissance était encore tâtonnante, on avait intérêt à s'entourer des expertises les plus larges, il a parfois donné le sentiment de privilégier un comité d'experts par rapport aux autres. Mais très vite, le tir a été corrigé. Il faut aussi comprendre que quand il y a des crises d'une telle ampleur qui surviennent, qui surgissent, sans qu'on ait été nécessairement préparé à les affronter, il y a, y compris dans l'action publique, parfois des tâtonnements, des ajustements qui résultent du fait qu'on est face à des phénomènes nouveaux. Et ce qui compte, c'est d'être capable de s'ajuster, de s'adapter, d'avoir la souplesse dans l'action.
C'est l'incertitude, c'est le changement des connaissances qui est le propre de la science.
Bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. Quel était le niveau de connaissances dont on disposait pour faire face à un phénomène lorsqu'on se trouvait en situation de responsabilité? Nul ne peut reprocher à aucun gouvernant, à aucun responsable, d'avoir agi en fonction du niveau de connaissances dont il disposait compte tenu de ce qu'était l'état de l'art ou de la science. Et bien entendu, sur ces sujets, on a vu, en quelques mois, en quelques années, les choses évoluaient très vite, notamment par le surgissement des vaccins qu'on imaginait venir plus tard, qui sont arrivés plus tôt, qui ont permis d'engager très vite la vaccination des populations pour ceux qui avaient procédé aux commandes en temps voulu des vaccins, et de protéger les populations vaccinées de ce virus.
Est-ce que ces experts sortent un peu affaiblis? Est-ce que vous pensez qu'ils ont eux aussi été un petit peu touchés en se frottant autant au pouvoir, en étant un peu mis en scène, sacralisés par le discrédit qui touche déjà le politique depuis quelques années? Ou pas? Est-ce que vous pensez qu'ils s'en sortent pas trop mal? Ou est-ce que du point de vue de l'opinion, il y a un affaiblissement?
Écoutez, moi je regarde les choses de façon objective. et j'essaie de les regarder de façon scrupuleusement honnête. Nous étions confrontés à une crise sanitaire inédite. En l'espace de 2 ans, alors même que cette crise était mondiale et que la médecine ne s'y était pas préparée, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de traitement, et il n'y avait pas non plus de protocole préétabli permettant de savoir comment il convenait de se comporter si ce virus touchait une personne de son entourage. Et par ailleurs, nous ne savions pas non plus la manière dont ce virus pouvait évoluer et muter. Il y a encore d'ailleurs sur ce sujet aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Eh bien, en l'espace de quelques mois, le gouvernement a réussi à prendre des décisions lourdes qui ont permis à la population française qui souhaitait se faire vacciner de le faire et de se trouver protégée du virus. Quand on regarde la lourdeur de la crise, la difficulté d'y faire face et la somme des décisions qui ont été prises, il faut plutôt reconnaître la capacité de l'État et de ceux qui l'ont dirigé à faire face à leurs responsabilités, plutôt que l'inverse, me semble-t-il.
Alors justement, vous parlez de la responsabilité, c'est l'un des grands sujets de cette crise sanitaire. Quelle responsabilité pour les acteurs publics? On a vu des perquisitions se dérouler alors même que les gouvernants étaient encore en train de gérer cette crise. Vous, vous avez regardé ça. Qu'est-ce que vous vous dites au fond? Il faut trouver un équilibre entre un besoin de responsabilité pour ces victimes, pour les familles des victimes, et en même temps, il y a ce risque de rendre des gouvernants paralysés, tyrannisés par une peur de, voilà, d'être mis en cause, sachant qu'on l'a bien vu sur cette crise sanitaire, il y a des responsabilités passées, il y a des responsabilités actuelles, il y a une connaissance qui évolue en temps réel, jour après jour. Est-ce qu'on a un peu perdu la raison? Comment on peut sortir de ce débat-là?
Je pense qu'on a trouvé par la loi, des équilibres qui soient plus raisonnables et responsables que ceux qui prévalent aujourd'hui. Moi, je ne commande pas l'action des magistrats, ils appliquent la loi. Mais je considère en revanche qu'une loi qui permet des perquisitions chez des ministres qui agissent, au moment où ils agissent, sur des sujets sur lesquels, on vient de le dire dans notre échange, le niveau de la connaissance ne permet pas de tout savoir et d'agir parfaitement dès l'origine, spontanément. Mettre en cause pénalement des ministres est de nature d'une part à ruiner la confiance de façon injuste en ceux qui ont le courage de prendre des responsabilités et de les exercer dans des moments de crise extrême. Deuxièmement, de faire en sorte que ceux qui exerceront des responsabilités politiques demain soient de moins en moins nombreux et de plus en plus aventuriers, parce que si les plus responsables sont convaincus qu'ils ne pourront plus exercer leurs responsabilités avec le minimum de sérénité qui permet de les exercer bien, nous n'aurons plus à la tête des institutions publiques que des aventuriers qui se moqueront des conséquences pour eux-mêmes, des actes qu'ils peuvent poser parce qu'ils n'auront rien à perdre. Et troisièmement, nous aurons une crise démocratique très grave.
Vous pensez qu'il faudrait aller vers une responsabilité de l'État plutôt que vers une responsabilité individuelle?
Je pense qu'il faut dépénaliser ces sujets. Je pense qu'il est tout à fait logique que des victimes soient indemnisées et que l'État soit appelé en responsabilité s'il y a des fautes qui sont involontaires, mais que la responsabilité pénale des ministres, qui laisse à penser que, alors qu'on est dans la gestion de crise sur des sujets sur lesquels tout est encore incertain, c'est un acte résultant de leur volonté qui est à l'origine des maux de la société, et que pour cette raison, ils doivent être pénalement sanctionnés. Cette logique est une logique funeste pour la démocratie.
Même chose pour les hauts fonctionnaires, ceux qui dirigent l'administration centrale, vous pensez que pour eux aussi, il faudrait dépénaliser. Et si je comprends bien votre réflexion, c'est dépénaliser dans ce temps spécial de la crise.
Je pense que il faut ne pas mettre ceux qui sont en situation de responsabilité sur des sujets aussi complexes en situation d'être confronté à des procédures pénales interminables, sauf à ce qu'il y ait une faute, une infraction pénale commise grave. Mais vous voyez bien que si des ministres qui sont en pleine action sur des sujets extraordinairement difficiles, qui ont à affronter des tempêtes pour des raisons qui tiennent au fait qu'ils doivent gérer des situations inextricables sur des sujets sur lesquels l'expertise est encore balbutiante. Si ces ministres-là, en même temps qu'ils doivent assumer ces responsabilités, doivent faire face à des perquisitions parce qu'on les met en cause pénalement alors même qu'ils commencent à agir, il ne restera plus grand-chose de l'efficacité de l'action de l'État. Et ce sont les citoyens qui doivent être protégés qui en subiront les conséquences. Donc c'est une réflexion qui doit être conduite, à mon avis, par le gouvernement en liaison avec l'ensemble des forces politiques, parce que ce sont des sujets sur lesquels il faut faire consensus. On a besoin de consensus démocratique fort sur des sujets aussi délicats, mais vous voyez bien la direction dans laquelle, à mon avis, il faut s'engager.
Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de ces rencontres organisées en partenariat avec le Conseil d'État. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.